Et bonjour à toutes et tous, c'est Cédric Homo qui nous accueille dans son micro, ou l'inverse. Bonjour Cédric.
Oui, laisse mon micro tranquille, bonjour.
Voilà, Cédric Homo de Repos Production. Un binôme bien sympathique puisque nos deux Belges ont remporté quelque chose d'assez mirifique, en tout cas en Allemagne, puisque vous êtes saint du pion du Kennerspiel depuis le mois de juin. Toutes nos félicitations, c'est déjà une chose. Et maintenant la question, ça fait quoi d'être le premier Kennerspiel de l'histoire du Kennerspiel ?
Déjà, il n'y a pas que nous qui avons gagné, surtout Antoine aussi d'ailleurs.
Et en tant qu'éditeur.
Oui, bon alors voilà. Donc l'éditeur est fort content, ma foi. Ça fait quoi? D'une part, ça fait plaisir parce que c'est un peu une récompense qui reconnaît le boulot effectué. Ça fait plaisir. C'est l'occasion d'aller faire un tour au pays des Bratwurst. C'est toujours des paysans. Berlin, c'est très très beau. Et puis surtout, ça a une incidence économique pour la société qui est plus de ventes. Qui dit plus de ventes dit plus de rentrées. Et qui dit plus de rentrées dit plus de possibilités pour faire plus de projets différemment, à plus de monde, etc., etc. Donc c'est bien.
C'est bien. Évidemment, on sentait bien que c'était positif, mais c'est un prix allemand. Est-ce que, selon toi, le fait que ce soit donc lié au Spiel? Donc pour la petite histoire, le Kennerspiel, c'est la première année qu'il y a un jeu pour joueurs endurcis, pour connaisseurs. Kennerspiel, c'est jeu pour connaisseurs. C'est la première fois que ce prix existe, vous l'avez remporté, mais est-ce que ça a une incidence en dehors des frontières allemandes?
Ça, c'est plus dur à dire. En fait, ça a une incidence sur le public passionné. Ce qu'on appelle vulgairement les geeks, au rang desquels je me reconnais. Les joueurs passionnés, qu'ils soient français ou américains, regardent ce qui se passe du côté du Spiel.
Ça reste une référence.
Oui, ça reste une référence mondiale. Mm-hmm. Donc, dans ce sens-là, c'est important. Mm-hmm. Maintenant, pour que nos jeux touchent le grand public, parce que Seven Wonders avait déjà touché, on va dire, la frange du geek. Mm-hmm. Pour maintenant le grand public, c'est encore une autre étape. Donc, ça va nous aider à la franchir largement en Allemagne. Mm-hmm. Le public allemand connaît le Kennerspiel et le regarde. Ouais. Ça a même plus d'incidence que certains prix littéraires ici ou des choses comme ça. Donc, c'est vraiment un prix qui est institué là-bas et qui a un poids. Donc en Allemagne, oui, ça va nous aider à convaincre un peu plus le grand public, à se faire découvrir. Et puis surtout, ça va nous permettre aussi peut-être de mettre le focus sur nos futures productions. Mm-hmm. Donc maintenant, pour le public allemand ou même pour le geek allemand, Repos Production n'est pas qu'une obscure société belge. Enfin, on existe, tout d'un coup on existe. Donc peut-être qu'ils vont faire un peu plus attention à nos prochaines sorties ou à nos anciennes sorties. Que du positif à nouveau.
Mais ça, c'est des estimations. On n'a pas encore la possibilité de voir pragmatiquement, en termes de chiffres, ce que ça représente.
Non. On dit, alors c'est un « on » qui est vraiment, qui parle, c'est le bouche-à-oreille entre éditeurs, entre joueurs, etc., qu'un bon Spiel des Jahres le prix pourrait générer quelque chose comme 300 000 ventes supplémentaires.
Juste une petite chose, quand on parle d'un nombre de boîtes, 300 000 boîtes, c'est sur un an, c'est 300 000 boîtes par an, ou bien c'est vendre 300 000 boîtes, quelle que soit la longueur de la vie du jeu?
J'ai plutôt l'impression que c'est quelle que soit la longueur, parce qu'il faut dire qu'une fois qu'un jeu a inondé 300 000 foyers, on est probablement un peu en saturation de la cible d'achat, c'est pour parler un langage marketing. Après, y a des jeux qui arrivent à passer encore au-delà, hein, et qui atteignent des millions d'exemplaires ou des choses comme ça. Je veux bien faire 300 000 unités tous les ans, je veux bien. Oui.
Tout à fait.
Donc le Kennerspiel, après, il faut savoir que les 300 000 watts, c'est pour le Spiel des Jahres, et avec un mauvais accent. Mais maintenant qu'il y a le Kennerspiel, personne ne sait sa portée, vu que c'est un peu le Spiel des Jahres qui a été divisé en deux, ouais, avec un côté grand public, un côté connaisseur. Donc, est-ce que ça va être des ventes supplémentaires? Est-ce que c'est les ventes qui vont être divisées par deux? Ou est-ce qu'il va y avoir 30%, 70%, presque 70%? On n'en sait rien.
Ouais, donc, c'est plus à l'heure actuelle, sans mesure de chiffre de vente, c'est plus une médaille qui vous dore la situation par rapport aux joueurs et on n'en a pas d'influence, on ne connaît pas l'influence que ça va avoir.
on a déjà, nous, pu expérimenter un peu l'influence parce que derrière, il y a une commande. On a notre chiffre commandé par nos distributeurs ont augmenté. Un prix fait augmenter le nombre de ventes, ça c'est évident. Par exemple, en Finlande, on vient de gagner le prix, le jeu de l'année, le Spiel des Sierres finlandais. Et ça a engendré aussitôt une commande en Finlande de quelques milliers de boîtes. Donc, les prix ont une influence, on ne peut pas le nier. Elle n'est pas égale dans tous les pays. Hein. On aimerait tous que ça se passe en France ou en Belgique comme ça se passe en Allemagne, je ne serais pas contre. Mais il faut aussi du temps pour instaurer un prix et dans la culture du grand public. Et ce n'est pas possible partout non plus.
Alors, pour revenir sur Seven Wonders, et puis on passera évidemment sur l'actualité puisqu'on est proche du salon de Essen. Seven Wonders, on raconte qu'il y a un certain nombre d'extensions qui sont quand même en préparation. On a déjà vu Leader qui est arrivé. On peut en dire plus sur cette rumeur. Est-ce que ça continue? Est-ce qu'on va arriver à un chiffre assez important d'extensions?
Ah ben, donc on est parti pour faire 7 extensions. C'était un peu le chiffre mythique autour duquel est architecturé le jeu. Et donc on aimerait bien s'y tenir pour le nombre d'extensions. Ce que je peux te dire, donc, c'est que outre Leaders, qui était la première, il y en a deux autres qui, à l'heure actuelle, sont en développement, dont certaines qui sont bien avancées. On va y avoir une extension qui va concerner la mer, des îles, des choses à découvrir, des flottes de corsaires, des choses comme ça, enfin, de corsaires ou de pirates. On a des petites idées là-dessus. C'est en développement. Il y a encore des choses qui changent, donc, mais ça avance bien. On a un autre projet qui est la Tour de Babel, qui serait une merveille commune à construire entre les joueurs.
On est sur du coopératif à ce moment-là.
Oui, enfin, disons qu'on construit la merveille ensemble, mais c'est quand même celui qui a mis le plus de pierres dans l'édifice qui va en retirer les bénéfices, ouais. Voilà, ou un peu plus de bénéfices que les autres. Ouais. Donc, mais on a tous envie de la faire quand même, voilà. Mais bon, là, c'est encore sujet à beaucoup de changements, mais ça avance bien. Et puis pour les autres, on a plusieurs idées. On aimerait bien avoir une extension mythologique, une extension de catastrophe aussi, etc., etc. Enfin, les grands thèmes récurrents de l'Antiquité qu'on retrouve souvent. Et peut-être un quatrième âge.
Mon Dieu. Des extensions, c'était... Quand tu parles d'extensions, tu dis on a des idées. Ça veut dire que ce n'était pas prévu à la base de faire des extensions parce que... Souvent, on a un jeu qui arrive, qui est trop gros pour sa première sortie. Et on en retire des concepts et finalement, on ramène les anciens concepts sous forme d'extension. Là, c'est vraiment de l'ajout lié au fait quoi, du succès du jeu ou des idées qui fusent parce que ben, on se rend compte que le jeu fonctionne bien.
Alors non, pas du tout. Là, Seven Wonders n'a pas été amputé de certaines parties au début. Ou alors Antoine, de son côté, l'a fait, mais c'était avant de nous le présenter. En fait, Seven Wonders a été pas mal poli, épuré et réglé, hein, donc, fine-tuning, hein. Vraiment, mais on n'a pas viré des gros morceaux au départ, il n'y avait pas un quatrième âge au départ ou des choses comme ça. Maintenant, pourquoi cette volonté de faire des extensions? Bah, c'est parce que, là après je le redis, on est des joueurs à la base avant d'être des éditeurs, et bon, c'est vrai qu'au bout de 500 ou 600 parties de Seven Wonders, on a envie de voir d'autres choses, mais le jeu nous plaît toujours autant. On se dit, ce serait sympa si je sais pas, maintenant on pouvait aller acheter de l'autre côté de la mer, ou si on pouvait se taper sur la tronche avec des bateaux, et puis bon, bah, une idée en amène une autre, et ce serait sympa, une merveille qui ferait ça. Ah ouais, bonne idée. Et les extensions, quelque part, naissent un peu toutes seules. Ouais. Maintenant, il y a aussi, bien sûr, cet aspect commercial dont je ne vais pas me cacher. On est très content si on a un jeu qui marche, d'avoir des extensions qui marchent, et de faire plaisir à tout le monde, et que ça rapporte à la société. C'est évident.
Ça veut dire que ces extensions sont développées main dans la main, entre l'éditeur et Antoine Bozza, ou c'est Antoine qui amène à chaque fois l'idée de l'extension?
Un peu de tout un peu. Il y en a certaines où c'est vraiment Antoine qui était à la base de l'idée, qui nous a soumis et ça avance. Il y en a d'autres où nous, on est allé vers lui en disant « Tiens, on a eu l'idée de ça, est-ce que tu penses que tu peux nous faire un truc ?» Et après, on y rebosse tous un peu dans tous les sens, jusqu'à ce qu'on soit tous d'accord. Et donc, on peut mettre du temps à argumenter entre nous et c'est pour le bien de l'extension, jusqu'à obtenir quelque chose qui plaise à tout le monde et qui potentiellement soit bon.
Ok, donc ça, c'est l'affaire Seven Wonders. La prochaine extension est prévue pour ?
Plus tard.
Ça, c'est fait.
Non, mais oui, allez, il y a une prochaine extension. Il y a un plateau bonus qui va être donné pendant la foire de Essen. ou qui sera disponible pendant la foire d'Essen. On ne sait pas encore ce qu'on va pouvoir faire vis-à-vis du nombre d'unités, mais là je suis en train de le tester en ce moment et on est sur les derniers réglages. La question est de savoir si le plateau commence avec une pièce d'or ou pas de pièce d'or.
D'accord, donc c'est vraiment du fine-tuning, effectivement. Alors, une excellente transition. Essen, c'est en octobre, nous sommes en août. Qu'est-ce que Repos Production va présenter lors de la foire de Essen ?
Alors, Essen, ça va être la sortie de Black Secret. Black Secret, qui est un jeu d'Antoine Boza, un petit auteur qui commence à monter et à se faire connaître. Ah bah oui, c'est lui qui a fait Seven Wonders. Donc, Black Secret, c'est la deuxième extension pour Ghost Stories, notre jeu coopératif. La première était White Moon. Depuis le début, on a envie qu'un jour, quelqu'un puisse jouer le méchant. Bah, c'est chose faite, parce qu'avec Black Secret, l'un d'entre nous va pouvoir jouer Wu Feng. Et donc, le jeu sera jouable en opposition. Cette fois-ci, c'est 1, 2 ou 3 ou 4 taoïstes contre 1 Wu Feng. Donc, le jeu pourra donc se jouer jusque 5.
Et donc, soulevons légèrement le voile. Que se passe-t-il ? Donc, il y a un Wu Feng qui vient encore jouer avec les pauvres taoïstes.
Alors, si vous avez lu la baseline de Ghost Stories, vous savez que Wu Feng, en fait, il arrive dans le village, dans le jeu de base, pour essayer de retrouver ses cendres qui sont cachées dans le village et de se réincarner et de je sais pas, la fin du monde, l'apocalypse.
La routine.
À servir l'humanité, comme d'hab, voilà. Et qui est-ce qui doit défendre le village ? Ben, c'est nous, comme d'habitude, qui allons nous y coller, vu que Bruce Willis était pris et qu'il n'était pas dispo, et Jack Bauer non plus.
Alors, Chuck Norris avait une indigestion.
Oui, Chuck Norris, ben, du coup, Chuck Norris est passé du côté sombre, à force.
Pour ça, il est mort d'une indigestion.
Voilà. Alors, donc, comment ça va se passer ? Eh bien, le joueur qui incarne Wu Feng, au début de chaque tour, va pouvoir activer ses démons. Alors, à quoi servent les démons ? Les démons sont dans les catacombes. Les catacombes sont où ? Ils sont en dessous le village. Et qu'est-ce qu'il y a dans les catacombes ? Les cendres de Wu Feng.
C'est pas vrai !
Si, c'est pour ça qu'il les cherche. Donc, le joueur qui joue Wu Feng, lorsqu'il va tirer une carte au début de chaque tour, va pouvoir l'employer maintenant de trois manières différentes. Il va pouvoir soit la jouer normalement, en la mettant dans le village, et c'est lui qui choisit où la mettre. Il va probablement éviter les boudins, je ne vous le cache pas. Soit il va utiliser cette carte, la couleur de cette carte, pour lancer un sortilège de la couleur correspondante. Les sortilèges, c'est plein de petits sorts qui vont fort embêter les joueurs, qui sont de plus en plus puissants au fur et à mesure que Wu Feng les lance. Parce qu'une fois qu'il a lancé deux sortilèges de niveau 1, il a le droit de lancer un sortilège de niveau 2, et ainsi de suite. Et la troisième solution pour utiliser cette carte, c'est de la sacrifier pour invoquer un démon. Plus la carte est grosse, plus le démon sera gros. Et les démons, c'est quoi ? C'est les mecs qui vont creuser dans les catacombes.
Et où est-ce qu'ils arrivent, ces démons ?
Eh bien, ils arrivent en jeu dans les catacombes. D'ailleurs, ils ne sortent jamais des catacombes, sauf une incarnation spéciale de démon, c'est l'ombre de Wu Feng. Parce que l'ombre de Wu Feng, lorsque Wu Feng a retrouvé les trois urnes qui sont dissimulées dans l'état de terre, eh bien, Wu Feng s'incarne. Enfin, son ombre commence à apparaître dans le village et elle, à col des baffes, et ça picote. Vu qu'à chaque tour, soit il te fait lancer un dé noir, soit il fait des points de dégâts aux joueurs, il se téléporte où il veut. Enfin bref, quand il est là, il faut vraiment, vraiment finir le jeu dans les tours qui viennent.
Okay. On l'a compris, c'est du lourd. Ça nécessite une certaine expérience avec le jeu de base. C'est pas conseillé de commencer avec Black Secret dès le début.
Bah, disons que si on est capable d'appréhender plein de règles, pourquoi pas. La complexité du jeu ne s'en trouve pas spécialement... la complexité en termes de règles, oui, il y a plus de règles à assimiler. Maintenant, la difficulté du jeu en termes de quel est le pourcentage de gagné varie un peu, mais pas énormément. Au sens où, bien que maintenant on ait un méchant...
Bonne nuit, Denis.
Bien qu'on ait un méchant qui va jouer Wu Feng, on va avoir aussi des avantages en tant que taoïste. C'est un nouvel allié dans le village, qui est le scribe... le calligraphe, pardon, qui va faire des parchemins magiques, ce qu'on appelle les mantras sanglants. Il les écrit avec du sang. Et chaque fois qu'on va perdre des points de vie, ils vont aller sur ces fameux mantras sanglants, qui eux sont des sorts très forts à disposition des taoïstes.
D'accord.
Voilà, il y a un petit côté ping-pong et tiens, Wu Feng prend ça.
Okay. Compatible avec White Moon, tant qu'à faire une connerie, on t'en la fait en musique.
Absolument, compatible avec White Moon. D'ailleurs, certaines tuiles sont des sorts spéciaux pour White Moon. Certains Wu Feng sont des Wu Feng spéciaux pour White Moon. Donc, si on joue sans White Moon, il faut les écarter au début de la partie. Sinon, on les prend avec. Donc, ça commence à faire énormément de matos. Savoir, c'est que c'est vendu dans une grande boîte. Il y a autant de matos que dans le jeu de base, quasiment. Donc, ça commence à faire pas mal de matos dans la boîte. Et il y a des grosses figurines.
Oui, je les ai vues. Elles sont non seulement belles, imposantes et... Il y a du matos, effectivement.
Ça a coûté cher en peinture.
Alors, est-ce qu'on s'arrête là sur Ghost Stories ?
Il est fort probable qu'Antoine commence à en avoir un petit peu ras la casquette, mais vu que maintenant on est pas mal en train de l'embêter avec Seven Wonders, de temps en temps il aura besoin de se reposer, alors il fera un coup de Ghost Stories.
Voilà.
Nous, okay. On n'est pas contre.
Antoine, si tu nous écoutes. Ok, donc ça c'est Essen, donc Black Secret avec du goodies Seven Wonders. Ça c'est le planning sur les deux mois qui viennent.
Voilà, sachant qu'à Essen, on va aussi naturellement enfoncer le clou, comme on dit en Belgique. C'est-à-dire montrer à nouveau du Seven Wonders sur un grand stand où on va montrer beaucoup de Seven Wonders pour que les Allemands puissent découvrir encore Seven Wonders et le jouer, oui. Ainsi que ses extensions.
Ça veut dire qu'effectivement, en tant que Kennerspiel, y a une place privilégiée pour Seven Wonders, même dans le salon.
Non, pas du tout. Il n'y a rien qui est prévu par le jury du Spiel des Jahres directement. Donc, c'est vraiment à l'éditeur de prendre ses dispositions. Le lendemain que tu apprends que tu as gagné, tu appelles en disant « Vite, 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 il me faut plus d'espace. Uh-huh. » Et donc, si tout va bien, on aura un stand un peu plus grand dans le Hall 12, qui est le stand de l'entrée. Donc, on sera toujours présent face à l'entrée sur notre petit stand au sein du grand stand Asmodée. Mais on aura un gros stand de reproduction qui sera un petit peu derrière, à gauche, où il y aura des choses à voir. Mmh.
Fort bien. Qu'est-ce qu'on a après Essen ? Je pense qu'on ne va pas s'arrêter là. Parce que, soyons clairs, sur Ghost Stories, c'est de l'extension. Sur Seven Wonders, bah, c'est fait. Maintenant, on est dans la logique d'extension. C'est clair que les joueurs vont commencer à se poser des questions. C'est quoi la suite ?
Alors, c'est quoi la suite ? Il y a plusieurs choses qui arrivent. Il y a quelque chose de Ludovic Maublanc et Antoine Bozat qui ont commis le Donjon de Nalbeuk. Eh bien, c'est une extension pour le Donjon de Nalbeuk. C'est la Marche Barbare. Alors, s'il y a des aficionados de la saga Nalbeuk et de l'œuvre de Pen of Chaos, il y a une chanson sur les barbares, un qui court vite, une qui fait de la cuisine, etc. Enfin, bon, c'est une chanson plutôt rigolote, enfin, comme tout cet univers.
On va devoir faire de la tarte aux myrtilles.
De la tarte aux myrtilles, ouais, je vois que tu connais. Et donc, bien, tous les barbares qui sont présents dans cette chanson ont été matérialisés sous forme de personnages. Donc, il est possible de jouer un groupe totalement de barbares ou de s'amuser à mélanger les barbares avec les personnages actuels. Ces barbares ont chacun leurs petits pouvoirs spéciaux, etc. Et il y aura des nouvelles salles de donjons. Donc les salles, si je ne dis pas de bêtises, le bureau de Zangdar, c'est la salle M. Donc on a A, B, C, D jusque M. Ce qui fait à peu près combien de salles ? Je te pose la question ?
Je tiens un micro, je suis un homme, je ne sais pas faire plusieurs choses en même temps.
Ok, bon, 28 divisé par 14. Je pense qu'il y a 14 ou 15 nouvelles salles, un truc dans le genre. Il y a aussi des nouveaux objets magiques, donc un petit deck de cartes d'objets magiques. Et donc, on va ajouter tout ça au jeu de base et avoir des épreuves encore plus débiles, encore plus folles et des nouveaux personnages pour renouveler le plaisir.
Ok, ça c'est en cours de développement.
C'est plus qu'en cours de développement vu que ça va partir en prod très bientôt et qu'on espère les avoir pour cette fin d'année.
Fort bien. Ça c'est Noël donc.
Noël.
Mais que se passe-t-il en Zuid ?
Alors, y a plein de choses. On a à l'heure actuelle deux party games. Enfin, un qui est plus party game et l'autre qui est plus un concept. On va faire comme ça. Alors, j'ai d'abord parlé de party game. Pour l'instant, le party game, il a un nom de code qui s'appelle Califico. On a hésité aussi en ce moment. Je suis en train de penser à l'appeler Quoi. Mais oui, c'est débile, je sais. Moi, je veux mettre un canard de bain dans la boîte, mais je vais devoir me battre. J'y arriverai. Donc, ce jeu n'a pas de nom, mais c'est un jeu qui se base sur des qualificatifs. C'est pour ça que Califico ou Califico, ça sonnait bien aussi. Ça fait partie de la famille des là ou pas là ou des famous. C'est qu'on a des qualificatifs qu'on va devoir jouer autour d'objets. Donc, c'est revoir des objets, il va falloir avoir les qualificatifs correspondants le plus vite possible. Et le premier à se débarrasser de ses qualificatifs est tout content parce que bah, il aura gagné. Et si on n'arrive pas à se débarrasser de ses qualificatifs, eh bien, celui qui en a le moins en main lorsque le deck de qualificatifs est fini, le deck, donc le paquet de cartes, lorsqu'il est fini, eh bien, celui-là remporte la partie. Donc un petit jeu tout con avec une sonnette ou un canard de bain, et ce sera un canard de bain, probablement d'une boîte souple si on arrive tous à se mettre d'accord, ce n'est pas encore sûr, dans la lignée des Time's Up, des Pits et autres joyeusetés.
Ok, typiquement, on a des cartes en main, avec quel genre de mots ? Et comment se passe un tour de jeu, juste si c'est figé là pour l'instant ?
Eh ben, par exemple, imaginons que tu as la carte 100 à l'usage, eh ben, tu vas dire quelqu'un d'autre a soumis le mot basket, et là tu fais hop, ding, tu tapes et tu dis 100 à l'usage. Oui, des baskets, ça 100 à l'usage.
Voilà. Et là tu t'es débarrassé d'une carte, et donc on continue comme ça jusqu'à ce qu'on ait
plus. Et donc c'est à moi maintenant de proposer une carte un objet, je ne pourrais pas te taper sur lui, je vais donc proposer un couteau à fromage par exemple.
Fort bien. Donc, Qualifico, prévision.
Prévision 2012. Ouais. 2012, où peut-être que les choses peuvent s'accélérer, mais je constate par expérience depuis un certain temps que les choses ont tendance plutôt à ralentir qu'à s'accélérer, vu la dose de travail qui nous est tombée dessus.
Et donc, terminons par cette chose bizarre.
Alors, Concept, c'est un jeu un peu étrange qui a été commis, je dis bien, par Alain Rivollet et Gaëtan Bojano.
Alain Rivollet qu'on a vu sur
Robot. Pour U-Robot, voilà, Gaëtan Bojano du projet Vassal. Et qu'est-ce qu'ils nous ont fait ? Ils nous ont fait un jeu à base d'icônes. C'est un jeu de communication, mais à nouveau de communication limitée. Je vais devoir faire deviner des concepts donc à mes partenaires. Pour faire deviner ces concepts, je ne peux pas parler. Enfin, à mes partenaires, à l'ensemble de la table pour l'instant. Et comment je leur fais deviner ça ? Je place des petits cubes en bois. C'est un jeu avec des cubes en bois. Et donc, je les place sur un énorme plateau qui est rempli d'icônes jusqu'à ce que les gens trouvent de quoi il s'agit. Donc, par exemple, je vais dire qu'il s'agit d'une œuvre cinématographique. Et je vais vous parler d'un homme aux habits noirs. Et je vais parler d'un animal grand et noir. Et je vous montre un petit éclair.
Le sergent Garcia.
Ce n'est pas le sergent Garcia, il s'agit de Zorro, parce que tu auras reconnu son cheval qui s'appelle le tonnerre ou foudre, je ne sais quoi. Et je mets aussi une oreille barrée, ça c'est Bernardo, parce qu'il n'a pas entendu.
Tout à fait.
Voilà, donc il fallait trouver Zorro par icône. Okay.
Donc ça c'est un jeu concept, ça se met sur la table, on place des cubes en bois sur une icône. On est sur vraiment un concept ? Où est la mécanique ludique ?
Alors, on est sur un concept, parce qu'il n'y a même pas à l'heure actuelle de mécanisme de points lié au jeu. On se demandait avec Gaëtan, on n'a pas encore parlé avec Alain. Alain, si tu nous écoutes, ne tombe pas de ta chaise. Mais on se demandait si on n'avait pas distribué des bons points. C'est-à-dire que les gens qui aident à deviner l'énigme en disant « Mais attends, là, peut-être qu'ils nous parlent d'un film » enfin, qui ont des déclics comme ça, eh bien, on pensait leur donner des cartes de bons points. Et à la fin de la partie, celui qui a le plus de cartes de bons points, range le jeu. Oui, voilà. Ou un truc comme ça.
D'accord.
Et d'ailleurs, c'est très très drôle, parce que c'est un jeu, quand on le sort en testing, on dit on va jouer ça pendant une demi-heure. Et comme le nombre de personnes autour de la table est tout à fait... on s'en fiche, quoi, on peut jouer quel que soit le nombre de personnes. Mais on se rend compte au bout de 3 heures qu'on peut ranger le jeu, parce qu'il y a des nouveaux joueurs qui arrivent, il y en a qui s'en aillent et qui s'en vont. Et ça boucle comme ça autour du jeu. Donc c'est vraiment un jeu qui peut rester sur la table pendant 3 heures de suite. C'est pas vraiment un jeu, en fait. C'est un objet étrange.
Tout à fait. Ça veut dire, par rapport au jeu d'ambiance, on a l'habitude de dire c'est un jeu où on s'en fout de gagner, finalement, parce qu'on s'est bien amusé. Là, ce concept-là, on n'a même pas envie de gagner, on a juste envie de trouver à un moment la proposition.
C'est ça. Et on s'amuse, bien sûr, mais c'est pas un jeu du tout où on va faire le tour de la table en courant avec un sombrero sur la tête. Là, en fait, c'est plus un plaisir intellectuel qu'on va prendre à avoir le déclic à trouver la solution.
Ça, c'est le planning. J'imagine qu'avec autant de boulot, vous n'êtes plus que deux dans la société.
On a
vu passer une photo sur Facebook où on voyait que vous étiez beaucoup plus. Je crois qu'il y a une équipe qui grandit maintenant.
Oui, il y a une équipe qui grandit. Donc, Repos Production vient de passer à 3 salariés, 2. Le 2, c'est le comptable qui vient de
faire un chien.
On aurait peut-être dû prendre un chien, je ne sais pas.
C'est gentil pour le comptable.
Ah oui, mais je n'écoute pas la radio, je peux dire du mal. L'équipe grandit, donc, ce qui veut dire que donc ça, au total, en comptant Thomas et moi, on est maintenant plus que 5. Ça ne se calme pas un jour, ça risque de continuer à augmenter. Voilà, et un jour, on dormira. Un jour.
Oui, un jour.
Un jour.
Bonne nuit, Cédric.
Merci, Thibault. Bonne nuit.
Vous avez aimé ce podcast ? Alors appuyez sur la touche « Trop cool ». Vous n'avez pas aimé ce podcast ? Alors continuez. Sur podcast.net, vous en trouverez d'autres. Vous verrez, à l'usure, vous y arriverez.